Vous écoutez On lit pour vous.
Encore très populaire, le télétravail. Un texte de Francis Vaille, paru le 22 juin 2026 dans la presse. Est-ce vrai que les employés du secteur financier travaillent pratiquement tous en présentiel désormais? Et qu'en est-il des fonctionnaires, des informaticiens et des autres corps d'emploi? 3 ans après que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a décrété la fin de la pandémie mondiale de COVID-19, le télétravail a perdu des plumes. De nombreuses organisations ont exigé que leurs employés reviennent au bureau au moins 4 jours par semaine, comme les banques canadiennes. Le gouvernement fédéral, pour sa part, a fait passer le présentiel de 3 à 4 jours par semaine pour les syndiqués, dès juillet prochain, et à 5 jours pour les cadres, depuis mai. L'exigence fédérale a soulevé de la grogne. Oui, le présentiel est indispensable pour l'esprit d'équipe et la culture d'entreprise. Mais de nombreux employés déplorent la perte de productivité qu'entraînera la mesure, comme l'augmentation du temps de déplacement, le manque de disponibilité de bureaux dans les locaux fédéraux et l'effritement de la conciliation travail-famille. Alors, que reste-t-il du télétravail? Le portrait est plus nuancé qu'on pourrait le croire. Et les plumes perdues sont moins nombreuses qu'attendues selon des données de Statistique Canada. Globalement, 21,2% des travailleurs canadiens profitent encore d'une forme de télétravail, que ce soit en mode hybride ou entièrement à domicile, selon Statistique Canada, dont les plus récentes données remontent à mai 2026. Malgré le vent de retour au bureau, cette proportion a reculé de seulement 3,2 points de pourcentage depuis mai 2023, donc depuis la sortie de la pandémie. La situation varie cependant beaucoup d'un secteur à l'autre, certains étant très peu propices au télétravail, comme la construction, la restauration ou le commerce de détail. Secteur financier, la moitié en télétravail. Ainsi, 56% des employés du secteur des services professionnels, scientifiques et techniques font encore du télétravail et même les 2/3 de ces 56% œuvrent encore exclusivement à domicile. Le reste est en mode hybride. Ce groupe est formé des informaticiens et des ingénieurs, entre autres. Dans le secteur financier, 49% bénéficient encore du télétravail, dont la moitié exclusivement à domicile. Ce secteur couvre large et englobe tant les banques que les assureurs ou les courtiers immobiliers, notamment selon les données de Statistique Canada. Si l'on exclut les secteurs agricoles et forestiers, c'est l'administration publique qui connaît la plus forte décroissance du télétravail depuis 3 ans, passé de 43% à 31%, suivi du secteur financier, baisse de 9 points de pourcentage, et des services professionnels, scientifiques et techniques, baisse de 6 points. La situation diffère-t-elle selon les provinces? Plutôt, oui. Elle dépend évidemment de la composition de chacune des économies. L'Ontario et ses nombreux fonctionnaires fédéraux et provinciaux arrivent au sommet canadien, avec 23,5% qui font du télétravail, suivi de la Colombie-Britannique et du Québec à 22%. À Terre-Neuve et Labrador, seulement 12% des employés bénéficient du télétravail. Le Québec se distingue de deux manières. D'abord, c'est ici que la part des employés œuvrant en télétravail a le plus reculé depuis 3 ans, de 4,3 points de pourcentage à 22%, après le Nouveau-Brunswick, de 5 points à 14,8%. Ensuite, le Québec se démarque comme la province qui mise le plus sur la forme hybride du télétravail. 12,1% contre une moyenne canadienne de 9,8%. Contrairement au fédéral, d'ailleurs, le gouvernement du Québec exige de ses fonctionnaires qu'ils soient au bureau 3 jours par semaine plutôt que 4. Les données de Statistique Canada n'indique pas le nombre de jours en présentiel et à domicile pour la forme hybride. ce que j'en pense? Qu'il serait contre-productif de revenir en arrière, c'est-à-dire avec une présence au bureau à 5 jours par semaine, puisque le télétravail permet d'économiser beaucoup de temps et d'énergie dans bien des secteurs. Le travail au bureau n'a toutefois pas son pareil pour souder une équipe, développer la créativité et améliorer les produits. Bien des jeunes qui ont souffert de l'isolement pandémique privilégient d'ailleurs le présentiel pour ces raisons. C'était « Encore très populaire, le télétravail », un texte de Francis Vaille, paru le 22 juin 2026 dans La Presse.
Une fleur californienne développe une résistance à la sécheresse. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 28 juin 2026 dans La Presse. Une fleur des montagnes californiennes a gagné en quelques années la capacité à résister à la sécheresse. Cette évolution est beaucoup plus rapide que prévu. Cela pourrait signifier que certains végétaux pourraient s'adapter au changement climatique. La mimule cardinale peut s'adapter aux climats extrêmes grâce à l'évolution, explique Amy Angert, une biologiste de l'Université de Colombie-Britannique, UBC, qui est co-auteure de l'étude publiée en mars dans Science. C'est probablement le cas d'autres plantes sauvages similaires. On s'inquiète que les changements climatiques surviennent trop rapidement pour que les plantes puissent s'adapter par l'évolution. Nous montrons que l'évolution peut être assez rapide. Dans le cadre de cette étude, les chercheurs de UBC et leurs collègues américains ont commencé à surveiller 55 populations ou sous-espèces, de mimule cardinale, Erythranthe cardinalis, en 2010, dans les montagnes Klamath, Sierra Nevada et San Bernardino. L'objectif initial était de mieux comprendre les limites géographiques des espèces végétales. Or, à partir de 2012, une sécheresse sans précédent depuis 10 000 ans a commencé en Californie. Elle a duré 4 ans. Nous nous sommes rendus compte que nous avions une occasion en or pour voir l'effet d'un climat extrême sur la génétique parce que nous avions les données avant la sécheresse baseline, dit Mme Angert. Alors, nous avons pivoté et modifier l'objectif du projet. Des feuilles et des graines de la fleur étaient conservées depuis 2010. Photosynthèse. Certaines des 55 populations ont disparu, mais 3 ont rebondi rapidement avant même la fin de la sécheresse. Elles avaient des particularités génétiques permettant notamment de perdre moins d'eau par leurs feuilles quand elles se nourrissaient du CO2 atmosphérique pour faire de la photosynthèse. L'analyse génétique comprenait des mimules cardinales côtières de l'Oregon et de la Californie. Les populations de plantes qui ont évolué le plus rapidement dans cette adaptation à la sécheresse ont rebondi plus rapidement, dit Mme Angert. En théorie, on devrait pouvoir cartographier la capacité des différentes espèces de plantes à évoluer rapidement. Il faudrait aussi voir si elles ont les caractéristiques génétiques d'adaptation aux extrêmes climatiques possibles. De cette manière, on pourrait savoir quelles plantes sont plus vulnérables aux changements climatiques et où. Une telle adaptation par l'évolution, en quelques années, a rarement ou jamais été observée chez des végétaux. Amy Angert explique. On sait que les bactéries s'adaptent aux antibiotiques et que les mauvaises herbes s'adaptent aux herbicides. Mais ce n'est pas nécessairement aussi rapide. Et c'est rare qu'on observe une évolution rapide pour une capacité positive d'une plante, la résistance à la sécheresse. Madame Angert prévient toutefois que seulement une petite partie des sous-espèces de cette fleur rouge de la côte ouest a montré cette capacité évolutive très rapide, appelée « sauvetage évolutif ». Et il nous faudra voir si cette évolution a diminué la capacité d'adaptation future à d'autres extrêmes climatiques. On peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide pour ce qui est des perspectives d'adaptation au changement climatique. Laboratoire. Observer l'évolution de cette manière n'a jamais été possible à l'extérieur du laboratoire, en milieu naturel, selon Zoé Jolie-Lopez, biologiste à l'UQAM. On voit trois phases. Le stress, dans ce cas-ci, la sécheresse, l'évolution génétique et la récupération des populations, dit Madame Jolie-Lopez. En laboratoire, on peut faire ça avec des manipulations. Mais ici, on l'observe à l'état sauvage. C'est fascinant. Madame Jolie-Lopez fait justement ce genre d'études en laboratoire avec le riz. Comme seulement trois des populations étudiées ont connu cette évolution très rapide, il est difficile de prédire si cette adaptation sera possible pour l'ensemble des végétaux, selon Madame Jolie-Lopez. Je pense, dit-elle, que cette étude montre que la diversité génétique est importante pour l'adaptation. Il faut beaucoup d'individus pour avoir cette diversité génétique. Je pense, par exemple, aux plantes qu'on mange, qui ont été domestiquées. Elles ont perdu beaucoup de diversité génétique dans la domestication. L'étude de Mme Angert amène par ailleurs de l'eau au moulin des partisans de la sélection des sous-espèces de plantes ayant des gènes de résistance à différents extrêmes climatiques pour favoriser l'adaptation au changement climatique. Note Daniel Schoen, biologiste à l'Université McGill. On voit ici une application concrète, naturelle, de cette stratégie, dit M. Schoen. Donc, ça nous confirme qu'identifier et favoriser les populations ayant ces gènes d'adaptation est un outil pour conserver les espèces dans l'avenir. Une version plus audacieuse de cette stratégie est d'introduire dans les populations sauvages des plantes ayant ces gènes d'adaptation aux extrêmes climatiques, selon M. Schoen. On changerait la génétique des populations, mais on les rendrait plus adaptables. Limites géographiques. Par ailleurs, l'objectif initial de l'étude de la mimule cardinale demeure d'actualité. Nous voulions tester des hypothèses sur l'aire géographique des espèces assurant une stabilité géographique, dit Mme Angert. Aux limites de cette répartition géographique, les espèces sont fragiles. Pourquoi l'évolution ne permet-elle pas aux plantes de s'adapter aux limites de leur aire géographique pour l'agrandir? Une partie des espèces menacées se trouve justement aux limites de l'aire géographique de ces espèces, selon M. Schoen. Il y a un débat sur la pertinence de protéger des espèces hors de leur aire géographique naturelle, dit-il. Mais avec les changements climatiques, on sait que les espèces vont devoir migrer, probablement vers le nord. On peut donc penser qu'il faut protéger les espèces à certaines des limites de leur aire géographique. En savoir plus, proportion des espèces vivantes menacées d'extinction d'ici 2100. Source, Science. Si les meilleures politiques durables sont adoptées, SSP1, 2 %. Si les inégalités de richesse augmentent et que la croissance de la population reste forte dans les pays pauvres, SSP3, 14 %. C'était « Une fleur californienne développe une résistance à la sécheresse », un texte de Mathieu Perrault paru le 28 juin 2026 dans La Presse.
Homosexualité en Afrique, entre répression, résistance et espoir de changement. Un texte de Étienne Leduc, paru le 12 juin 2026 dans Fugue. Alors que plusieurs pays occidentaux ont profondément renforcé les droits des personnes LGBTQ+, une partie importante du continent africain connaît actuellement un mouvement inverse. Criminalisation accrue, discours politique hostile, influence grandissante des groupes religieux conservateurs et rétrécissement de l'espace civique. Dans plusieurs États, les personnes LGBTQ+ font face à un climat de plus en plus difficile. Parmi les organismes de défense des droits humains, cette tendance ne se limite plus à des lois pénales héritées du passé. Elle s'inscrit désormais dans une stratégie plus large de contrôle social où les minorités sexuelles deviennent souvent des cibles politiques. Une criminalisation encore largement répandue. Aujourd'hui, plus de la moitié des pays africains continuent de criminaliser les relations entre personnes de même sexe. Les sanctions varient considérablement d'un pays à l'autre. Au Nigeria, les relations homosexuelles peuvent entraîner jusqu'à 14 ans de prison. En Tanzanie, en Zambie ou en Gambie, elles peuvent être punies par la prison à vie. Dans certains pays ou régions, appliquant la charia, notamment en Mauritanie, dans le nord du Nigeria ou dans certaines parties de la Somalie, la peine de mort demeure théoriquement applicable. Cette réalité s'est récemment aggravée dans plusieurs États d'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal, les autorités ont adopté ou renforcé des mesures répressives visant directement les personnes LGBTQ+. Pour les militants, ces initiatives s'inscrivent dans une dynamique politique plus large où la défense des valeurs traditionnelles sert souvent de levier de mobilisation populaire. Quand l'homophobie devient un outil politique, la situation a particulièrement évolué dans plusieurs pays confrontés à des crises politiques ou institutionnelles. Au Ghana, un projet de loi controversé vise non seulement les relations homosexuelles, mais également leur prétendue promotion. Au Sénégal, où l'homosexualité était déjà criminalisée, le débat politique s'est durci ces dernières années sous la pression de groupes religieux et conservateurs. Dans plusieurs pays, les droits LGBTQ+ sont devenus un marqueur idéologique permettant à certains dirigeants de se présenter comme les défenseurs de l'identité nationale face à ce qu'ils décrivent comme des influences occidentales. Ce discours trouve souvent un écho favorable auprès d'une partie de la population, malgré un paradoxe historique rarement souligné. Des lois héritées de la colonisation. L'un des arguments les plus fréquemment invoqués contre l'homosexualité en Afrique consiste à la présenter comme une importation occidentale étrangère aux cultures africaines. Pourtant, de nombreux historiens rappellent que plusieurs lois réprimant les relations entre personnes de même sexe trouvent leurs origines dans les codes pénaux imposés par les puissances coloniales européennes. Les législations anti-sodomie introduites par les administrations britanniques, françaises ou portugaises continuent aujourd'hui d'influencer le droit de nombreux pays africains. De plus en plus de chercheurs et de spécialistes des études africaines contestent également l'idée selon laquelle les diversités sexuelles et de genre auraient été absentes des sociétés précoloniales. L'homosexualité n'est pas arrivée en Afrique avec les Européens, rappellent régulièrement plusieurs universitaires africains qui documentent l'existence historique de réalités sexuelles et familiales variées bien avant la colonisation. Au-delà des lois, un climat de peur. Même dans les pays où l'homosexualité n'est pas criminalisée, l'acceptation sociale demeure souvent limitée. Au Cameroun, par exemple, les arrestations liées à l'homosexualité reposent fréquemment sur de simples soupçons. Selon plusieurs organisations locales, certaines personnes sont dénoncées par leur entourage ou voient leur téléphone fouillé lors d'interpellations policières. Les accusations d'atteinte à l'ordre public, de comportements suspects ou de non-respect des normes sociales servent parfois de prétexte à des poursuites. Cette situation favorise un climat de peur permanent. Beaucoup de personnes LGBTQ+ vivent dans la discrétion, cachant leur identité à leur famille ou envisagent l'exil comme seule solution pour vivre librement. Les conséquences vont bien au-delà du plan juridique. Les organismes communautaires constatent des impacts importants sur la santé mentale, l'accès au logement, à l'emploi et aux soins de santé. Les associations en première ligne. Face à cette réalité, plusieurs organisations locales tentent de maintenir des services essentiels. Au Cameroun, l'organisme Humanity First accompagne des personnes LGBTQ+ victimes de violences ou d'exclusion familiale. Son directeur, Ulrich Mvate, souligne que les besoins demeurent immenses alors que les ressources se raréfient. La diminution récente de certains financements internationaux complique encore davantage la situation. Plusieurs organismes peinent désormais à offrir des hébergements d'urgence, des services juridiques ou du soutien psychosocial. Pour de nombreuses personnes rejetées par leur famille ou leur communauté, ces associations représentent souvent le seul filet de sécurité disponible. Le poids des religions. Les débats entourant les droits LGBTQ+ en Afrique sont également profondément influencés par les institutions religieuses. Le christianisme et l'islam occupent une place centrale dans la vie publique de nombreux pays et les discours religieux façonnent souvent les perceptions populaires de l'homosexualité. Les églises évangéliques et pentecôtistes se montrent particulièrement actives dans leur opposition aux avancées des droits LGBTQ+. Certaines entretiennent des liens étroits avec des réseaux conservateurs internationaux, notamment américains. Du côté musulman, l'homosexualité demeure généralement considérée comme incompatible avec l'interprétation dominante des textes religieux. Toutefois, des voix dissidentes existent. L'archevêque sud-africain Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, avait comparé la lutte contre l'homophobie à celle menée contre l'apartheid. D'autres leaders religieux, chrétiens ou musulmans, défendent également des approches plus inclusives, fondées sur la dignité humaine et la compassion. Le cas de Mussin Hendricks, premier imam ouvertement homosexuel au monde, demeure emblématique. pendant des décennies. Il a milité pour l'inclusion des musulmans LGBTQ+, en Afrique du Sud, avant d'être assassiné en 2025. L'Afrique n'est pas un bloc uniforme. Malgré les reculs observés dans plusieurs régions, le continent africain présente une réalité beaucoup plus nuancée qu'on ne le croit souvent. L'Afrique du Sud demeure le pays le plus avancé du continent en matière de droits LGBTQ+. Le mariage entre personnes de même sexe y est légal depuis 2006 et la Constitution interdit explicitement les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle. Le Botswana a confirmé la dépénalisation de l'homosexualité, tandis que l'Angola, le Mozambique ou encore le Gabon ont récemment supprimé certaines dispositions pénales héritées de l'époque coloniale. Ces avancées démontrent que les débats évoluent également dans plusieurs régions du continent, même si les changements demeurent fragiles. Un enjeu de droits humains et de santé publique. Pour les défenseurs des droits humains, la question dépasse largement les débats idéologiques. La criminalisation et la stigmatisation des personnes LGBTQ+, ont des conséquences directes sur leur sécurité, leur santé et leur accès aux services essentiels. Elles favorisent également les violences, les arrestations arbitraires et l'exclusion sociale. Les experts en santé publique soulignent notamment que la peur de la discrimination éloigne souvent certaines personnes des services de prévention et de traitement du VIH, compromettant ainsi les efforts de lutte contre l'épidémie. Dans plusieurs pays africains, les droits LGBTQ+, demeurent donc au cœur d'un affrontement entre visions opposées de la société. Entre répression et ouverture, les trajectoires divergent d'un État à l'autre. Une chose demeure toutefois constante. Derrière les débats politiques et religieux, se trouvent des millions de personnes dont la sécurité, la dignité et les libertés fondamentales restent encore largement contestées. C'était « Homosexualité en Afrique, entre répression, résistance et espoir de changement », un texte de Étienne Leduc, paru le 12 juin 2026 dans « Fugue ».